reconstruction de l'Ukraine coûtera très cher. Les dommages vont se chiffrer en centaines de milliards d'euros. Et pour les Européens, eh bien, la facture, c'est donc direction Moscou.
Oui, qui casse paye, comme on dit. Et la facture sera lourde, en effet, au minimum 600 milliards d'euros, parce qu'il va falloir reconstruire les infrastructures, les entreprises, les habitations, mais aussi dédommager les victimes de la guerre. Une facture que Moscou n'a évidemment aucunement l'intention d'honorer en l'état. Mais c'est pas grave, disent les Occidentaux, de l'argent russe, on en a chez nous et on compte bien s'en servir. Alors c'est bien sûr un des effets des sanctions contre Moscou. On a gelé des avoirs russes, des yachts, des voitures de luxe, mais aussi de l'argent russe qui se trouve en ce moment sur des comptes en Occident. Et quand je dis Occident, je parle de l'Union européenne, mais aussi des États-Unis et du Canada, ce qui donne un joli pactole, plus de 300 milliards d'euros d'avoirs bloqués, auxquels donc la Russie n'a plus accès. Et donc depuis quelques mois, une idée trotte dans la tête des Occidentaux, et elle s'est encore invitée au sommet européen la semaine dernière. Et si, au lieu de geler ses avoirs, on décidait de les saisir pour de bon, de les confisquer donc, et de les réaffecter au bénéfice de l'Ukraine.
Bon, ça paraît simple comme solution, mais est-ce qu'on peut comme ça confisquer les ressources d'un autre pays ?
Et non, c'est pas si simple évidemment, parce qu'il faut que tout cela soit compatible avec le droit international. Alors, confisquer des avoirs appartenant à des individus, ça c'est possible. Le droit international permet de saisir les biens, en l'occurrence ici d'oligarques russes, si on peut prouver que ces biens sont le produit d'activités criminelles, par exemple corruption ou blanchiment d'argent. Mais les biens individuels ne représentent qu'une petite partie des avoirs russes gelés. L'essentiel appartient à la Banque centrale russe et à la Fédération de Russie. Et là, on a un problème parce que c'est quasi impossible de les confisquer parce qu'il y a une règle qui s'appelle l'immunité des États. On ne peut pas simplement prélever de l'argent d'un État qui se trouve à l'étranger et le refiler à un autre État. C'est contraire au droit international. Si on veut saisir les avoirs russes, il faut donc une base juridique, il faut un nouveau cadre international qui le permette, et c'est donc sur ça que l'Union européenne est en train de plancher en ce moment, sur ce nouveau cadre international. L'idée, ce serait non pas d'utiliser l'argent russe en tant que tel, mais de l'investir et d'utiliser les revenus de ces investissements pour financer la reconstruction de l'Ukraine.
Bon, on imagine que cette solution, ça ne va pas plaire à la Russie, qui pourrait y voir une provocation avec un risque d'escalade du conflit ?
Alors, il y a bien sûr un risque, mais on va dire que la crainte de provoquer Moscou est peut-être moindre qu'il y a quelques mois, puisqu'on l'a vu avec les chars que les Européens ont décidé d'envoyer en Ukraine. Cela dit, mettre le grappin sur les avoirs russes comporterait certainement d'autres risques, parce qu'en faisant cela, on ouvre la boîte de Pandore. On crée un précédent, et ça c'est dangereux. Ça pourrait en effet donner des arguments à certains États mal intentionnés qui, à l'avenir, pourraient décider de confisquer, par exemple, les avoirs de la Banque nationale belge, on va dire, soi-disant parce que notre pays aurait violé le droit international.
Vous dites, Annie, que ça créerait un précédent. Ça veut dire que ça n'est jamais arrivé avant ?
En Europe, non, il n'y a pas de précédent. Aux États-Unis, on a plusieurs exemples de confiscation, mais dans des contextes spécifiques, par exemple, donc pas dans un contexte de guerre comme en Ukraine. En 2012, par exemple, les États-Unis ont confisqué des fonds iraniens dans le cadre de leur politique antiterroriste, une décision qui est d'ailleurs contestée aujourd'hui par l'Iran devant la Cour internationale de justice. Alors, plus récemment, les États-Unis ont entamé une procédure pour saisir les avoirs de la banque afghane, évidemment pour éviter que cet argent tombe entre les mains des talibans. Mais là, encore une fois, la situation est différente puisque le gouvernement taliban n'est pas reconnu par la communauté internationale.
Mais donc rien en Europe. Pourtant, l'Allemagne, après la Première Guerre mondiale, elle a bien dû payer des réparations, si mes souvenirs sont bons.
Oui, et ça, c'est toute la nuance. Comme vous le dites, l'Allemagne a dû payer des réparations, mais après la guerre et dans le cadre d'un accord de paix. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Au sortir des conflits, les différentes parties négocient entre elles des réparations de guerre. Or, aujourd'hui, évidemment, on est bien loin de pouvoir envisager un accord de paix avec la Russie et encore moins d'imaginer que Moscou accepte de payer des réparations. Et donc, l'Europe préfère avancer seule, utiliser l'argent russe sans son aval. Mais évidemment, on n'en est qu'au préliminaire. La mise en place d'un cadre juridique qui tienne la route prendra du temps. sans garantie de succès.
Voilà, et on rappelle que la